Seb et Valérie. On va à présent découvrir Savoir précieux avec Amandine qui nous a rejoint ici sur notre plateau Attitude en direct de l'espace Cara.
Bonjour Amandine.
Bonjour.
Bienvenue sur le stand Attitude.
Merci d'accueillir.
Avec plaisir. Je vous laisse vous présenter peut-être pour nous expliquer un petit peu déjà pourquoi vous êtes là, parce que vous n'êtes pas tout à fait similaire aux autres exposants.
Oui, on est un petit peu atypique effectivement sur le salon. Donc nous, on n'est pas un établissement scolaire ou une entreprise. En fait, on est un collectif d'associations porté par une association qui s'appelle Renaissance Écologique. Donc sur le salon, voilà, c'est le nom que vous allez trouver. On est là en fait pour montrer qu'il faut prendre en compte en fait la transition écologique aussi dans l'orientation, dans tous les métiers. Et pour ça, en fait, on a un stand avec une grande fresque qui fait 3 mètres par 1 mètre et où on propose en fait la vision d'un monde durable qui aurait réussi sa transition. Parce que souvent, quand on parle d'écologie, on a l'impression que ça va être les restrictions, la perte de liberté, l'écologie un peu punitive, les Khmers verts. Et nous, on veut montrer que ça peut être positif et inspirant. Et donc, cette fresque-là est basée sur 24 chantiers qui correspondent en fait à des secteurs qu'on va pouvoir retrouver sur le salon. Et l'idée, c'est de montrer que, en fait, quel que soit son métier, quel que soit son secteur d'activité, on doit et on peut prendre en compte la transition écologique et vraiment changer sa manière en fait de commercer, de vendre, de créer, de produire. Voilà.
C'est que vous l'avez dit, il y a encore aujourd'hui, et puis d'autant plus il y a une dizaine d'années, il y a un fort déni face à l'écologie qui a tendance à présenter ça comme une préoccupation un peu de niche, quelque chose de très, très marginal, alors qu'au final, plus le temps passe et plus on ne peut plus détourner le regard du fait que l'écologie, c'est notre vie en fait, et ça fait partie, tout ce qui est organisation de travail, tout ce qui est organisation de société, doit passer par aussi l'environnement dans lequel on vit. Du coup, votre fresque, elle est basée sur des travaux d'économistes, d'écologistes. Vous avez pas mal de sources et de rapports qui sortent chaque année, qui dressent la situation, qui proposent des alternatives.
Oui. Alors effectivement, je vous disais, on a un collectif d'associations, donc il y a plusieurs associations. Donc par exemple, la fresque du climat, dont je suis la référente pour la Charente, est un atelier basé sur les rapports du GIEC, donc le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et donc là, on va dresser le constat scientifique cause-conséquence. Là, sur le salon, on n'est pas là pour faire de la sensibilisation au constat scientifique. Là, on est là pour essayer d'inspirer. Et donc, pour le coup, la fresque de la Renaissance écologique, là, on n'est pas du tout sur des rapports très techniques, etc. D'accord. On est sur une fresque qui est basée en fait sur une vraie fresque de l'époque de la Renaissance que vous pouvez toujours voir vous allez en Italie dans la ville de Sienne. Cette fresque est dans le Palazzo Pubblico, l'équivalent de la mairie locale, et vous pouvez la voir. Et en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a transposé cette fresque dans le monde moderne. Et en fait, ça montre un territoire qui aurait réussi sa transition écologique et donc qui va être équilibré entre la partie ville avec les commerces, les habitations, et une partie campagne où on va trouver de quoi s'alimenter, se nourrir, et puis tous ces espaces verts, cette nature, les forêts, qui sont là aussi pour notre bien-être, voilà. Et on aide les gens du coup à se projeter dans quelque chose qui est plus désirable. Et je pense que c'est hyper important aussi quand on touche les jeunes. On sait qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont éco-anxieux en fait par rapport à tous ces sujets. Nous, ce qu'on veut, c'est les inspirer, quoi, et pas juste leur dire vous allez hériter de ce monde catastrophique. Mais non, c'est aussi une opportunité.
Oui, leur montrer qu'il est possible d'agir.
Et c'est pour ça aussi qu'au-delà de cette fresque qui peut paraître un peu utopique, mais qui ne l'est pas, on montre très concrètement des solutions pour chaque chantier qu'on identifie dans la fresque, des structures en fait déjà engagées, que ce soit au niveau national, mais aussi on a eu hier la présence de 3 structures locales qui sont venues avec nous sur notre stand. D'accord. Pour montrer que aussi en Charente, il y a des moyens de s'engager et de faire de l'économie et de travailler différemment. Voilà.
Oui, c'est, vous avez parlé de 24 chantiers, donc on est vraiment dans du concret en fait.
Oui, on est quand même dans du concret, même si on essaye d'inspirer, parce que aujourd'hui on n'est pas encore dans ce monde-là, mais on monte la voie possible, et en fait on veut montrer que toutes ces initiatives qui commencent à émerger, et il y en a partout sur le territoire, elles demandent qu'à être soutenues, donc que ce soit en tant que consommateur, en tant que citoyen, mais aussi en tant que futur salarié. On a besoin de toute cette jeunesse avec toutes ses idées, son intelligence, son énergie.
On a besoin de retrouver ses valeurs dans son travail, dans l'entreprise.
Exactement.
crise pour
et
laquelle
en fait, un des meilleurs moyens pour lutter contre l'éco-anxiété, c'est de passer à l'action. Et quand on passe 8 heures par jour à travailler, ben c'est quand même un super moyen en fait d'agir. Donc,
oui, effectivement.
Voilà.
Et c'est vrai que j'ai peut-être le sentiment qu'on manque globalement. Je parle de recul un peu sur l'histoire. On est né dans une société ultra-industrialisée qui faisait fi de beaucoup de choses sur l'écologie malgré les alertes.
Ouais.
Alors que pourtant, si on se base ne serait-ce que sur le déjà là, il existe encore des sociétés qui ont beaucoup moins d'impact, qui se soucient beaucoup plus de l'environnement et du vivant, et qui n'ont pas eu de mal à prospérer, on va dire, et à permettre à tout le monde de vivre. Donc c'est déjà possible dans le sens où c'est déjà fait, et encore rien n'empêche d'inventer effectivement des nouvelles solutions. C'est là-dessus que vous vous basez en fait.
Oui, c'est ça, c'est le retour à la bougie ou on va pas vivre comme dans tel pays. Mais
voilà,
c'est en fait de
évidemment.
Prendre le meilleur finalement de ce qu'on a appris dans le passé, de ces cultures-là, et puis aussi le meilleur de la modernité, parce qu'il y a aussi des solutions qui viennent du monde moderne. Par exemple, tout ce qui est santé, heureusement qu'on a évolué en termes de recherche et ces choses-là. Et en fait, l'idée, c'est pas de dire on arrête tout, on rejette tout ce qui existe de moderne pour retourner à une époque où, parce que mine de rien, à l'époque de nos arrière-grands-parents, il y avait aussi beaucoup de morts pour d'autres raisons que des raisons environnementales. Donc c'est de se dire, on essaye de garder ce qui est le meilleur dans aujourd'hui, et puis sur le reste, on essaye de faire différemment. Et puis, oui, il y a des solutions qui existent du passé, puis il y a des innovations qui seront créées.
Oui, il y a beaucoup de bon sens en fait.
Mais voilà, j'ai eu des échanges très intéressants avec un stand sur les écoles d'ingénieurs où on leur dit, mais vous, votre défi, ça va être de réduire notre empreinte carbone par 5 dans les 30 prochaines années. Là, on a besoin de ces cerveaux qui vont nous trouver aussi des solutions, peut-être low-tech et pas high-tech, mais en tout cas, voilà.
Au final, c'est vrai que voilà, vous l'avez dit, il y a des technologies, il y a des connaissances scientifiques qui progressent. Moi, il y a un exemple que j'aime bien donner, c'est l'exemple des ampoules à LED. Ça consomme beaucoup moins, mais par contre, voilà, la main dont c'est utilisé, vous allez avoir le concessionnaire du coin qui va en mettre 5 fois plus du coup, et qui va illuminer ça toute la nuit.
Oui.
Alors on a envie de dire voilà, la technologie elle est là, on peut consommer moins.
Ouais.
Mais du coup, la manière dont on va l'appliquer, c'est ça qui va faire une différence.
C'est ça. En fait, généralement, c'est le problème, il est rarement sur une technologie, c'est vraiment les usages. Est-ce que vous décrivez, ça porte un nom, ça s'appelle l'effet rebond.
Oui.
En fait, c'est le fait que toute innovation technologique peut avoir des impacts positifs, mais comme ça va induire un changement de comportement de la part des utilisateurs, des fois, ces impacts positifs ils vont être dépassés par les impacts négatifs. Et donc, l'idée, c'est de rééquilibrer les usages, et c'est pour ça qu'on ne peut pas envisager la transition écologique que par des solutions techniques. Il va falloir aussi passer par de la sobriété. Mais souvent, la sobriété est vue comme quelque chose de négatif.
Oui,
quand on parle de décroissance, on confond ça avec de la récession. On ne comprend pas ce qu'il y a derrière les mots. Et donc nous, ce qu'on essaye de montrer, c'est qu'on peut être dans une société sobre, mais heureuse. La fameuse sobriété heureuse de Pierre Rabhi. Voilà.
Oui.
Et donc c'est ce qu'on essaye de projeter. Et en montrant qu'il y a déjà des choses qui existent, et ça demande juste à se généraliser et à exploser.
Ça me rappelle un reportage que j'avais vu il y a quelques années qui s'appelait Prêt à jeter, qui parlait justement de toute l'industrie textile. Style ou même de l'obsolescence programmée, où on jette des machines, où on jette énormément de choses en pensant que ça, parfois naïvement, que c'est recyclé alors que ça ne l'est souvent pas.
Ouais.
Et au final, il y avait un propos qui m'avait marqué qui disait en fait, avoir un mode de vie, on va dire, soutenable, c'est pas bien entendu revenir à la bougie ou au Moyen-Âge ou quoi, ce sont des caricatures vraiment stupides avec lesquelles il faut en finir.
Exactement.
On pourrait juste revenir à un niveau de vie tel qu'il était dans les années 1960 avec les technologies actuelles moins polluantes, et déjà, rien comme ça, on pourrait continuer bien plus longtemps sans maximiser notre impact et en le réduisant drastiquement déjà.
Bien sûr, ouais, tout à fait. Il y a des études qui ont montré aussi la corrélation entre le niveau de bonheur et le niveau de richesse.
Oui.
Et on tourne, avec les impacts sur l'inflation, je pourrais pas vous dire exactement, mais on tourne aux alentours de 2 000 $, je crois. Donc 2 000 €, on peut dire. Voilà, en dessous de ce niveau-là, effectivement, on progresse. On a effectivement besoin d'atteindre à peu près ce niveau-là pour avoir ce dont on a besoin pour vivre, etc. Mais après, au-delà de cette barre des 2 000 €, finalement, tout ce qu'on va gagner en plus, l'accumulation de richesses, et notre système, il est fait comme ça, n'apporte pas de bonheur complémentaire. Parce que qu'est-ce qui vous rend heureux? Moi, je demande souvent, quand je démarre mes ateliers de sensibilisation, je pose une question aux gens, je leur demande de me décrire une activité qui les rend heureux. eh ben, on ne parle pas d'aller faire des sessions shopping chez H&M, Shine ou Zara. Ou, voilà. On me parle de relations avec les proches, passer du temps avec ses amis. On me parle de faire des randonnées, du sport, chanter, danser. Et finalement, c'est ça qui est le plus important. Et donc, une fois qu'on a assuré le minimum de son confort matériel, et ça, c'est très important parce que il y a vraiment une notion de justice sociale aussi dans les questions d'écologie. Parce que souvent, on va me dire, bah oui, mais dans tel pays, ils ont pas l'électricité, ils vont la vouloir comme nous. Bah oui, c'est normal en fait. Et on a tous besoin d'assurer ce palier de bien-être. Mais une fois qu'on a atteint ça, bah, le bonheur il vient pas dans la surconsommation, l'accumulation de richesses. Et aujourd'hui on a une économie qui est très prédatrice, et l'idée c'est de rééquilibrer un peu tout ça.
Voilà. C'est vraiment de tout repenser en fait, tout le travail, la politique, la vie sociale, tout en fait mériterait d'être réexaminé en fait.
C'est vraiment un changement complet de nos modes de vie, mais c'est vraiment, je trouve que c'est une occasion vraiment unique de se réinventer. Et puis voilà, et toute cette jeunesse qui est créative, qui a ses idées, et ben voilà, nous on est là aussi pour les toucher et leur montrer que tout leur potentiel il va pouvoir être exploité aussi dans cette transition.
Les jeunes ne manquent pas d'idées généralement. Souvent justement ils ont un regard neuf sur le monde, moins fatigué que j'allais dire que le nôtre ou que d'autres. Et au lieu de les saper en leur disant non mais c'est comme ça, c'est la vie, on peut leur dire peut-être qu'effectivement on va essayer de canaliser ça et t'apporter des solutions. Ouais. C'est ce que vous essayez de faire.
Oui.
Donc quand on est une entreprise, une collectivité ou une école, qu'on n'a pas forcément les ressources en interne et qu'on souhaite donner un élan justement dans ce sens à son entreprise, est-ce qu'on peut vous contacter?
Oui, tout à fait, vous pouvez nous contacter. Nous, on intervient aussi énormément dans les entreprises parce que c'est aussi un des grands piliers de la transformation. On ne pourra pas arriver à un monde plus durable si on n'embarque pas les entreprises dedans. Donc nous, on intervient énormément. Si je prends l'exemple de la fresque du climat, d'ici quelques semaines, on aura touché 1 million de personnes avec cet atelier. Et on intervient énormément. On a des dizaines de demandes d'intervention dans les entreprises chaque jour. Et donc nous, on est vraiment prêts. On se tient à disposition pour vous accompagner. Pour les accompagner là-dedans. Et on essaye de les outiller au maximum aussi. Nous, on peut intervenir, mais après l'idée, c'est qu'on des animateurs en interne. On donne les outils pour qu'après les entreprises déploient à grande échelle.
Voilà, s'approprient le sujet. L'adapte aussi.
Voilà. Et donc on a des ateliers, c'est très bien en fait de démarrer avec des ateliers vraiment pour remettre tout le monde à la page sur le constat scientifique, parce que souvent on en a entendu parler, mais on ne connaît pas les ordres de grandeur, vraiment les enjeux. Donc avoir une bonne vision là-dessus. Et puis après on a aussi des ateliers qui vont être plus tournés sur les pistes d'action. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place très concrètement au niveau de l'entreprise. Et généralement ces ateliers-là, c'est vraiment la première brique pour un chemin de redirection écologique des sociétés. Et donc on intervient beaucoup dans ces contextes-là pour acculturer l'intégralité des salariés et faire en sorte qu'ils aient envie de s'embarquer dans ce projet collectif.
Oui.
Avec les mêmes bases, la même énergie. Et puis après, tout le monde, même les adultes sont aussi source de créativité. Et donc les solutions, généralement, les gens ils les connaissent et ils arrivent à les trouver. Mais pourvu qu'ils aient bien compris le problème à la base.
Oui. Voilà. Mais il faut donner le coup d'envoi quelque part.
C'est ça, exactement. Et nous, on joue ce rôle-là, cette petite étincelle qui va permettre de lancer les choses. Vraiment, nous on intervient dans les structures. Pas tant pour former les gens que finalement leur donner envie de passer à l'action. Voilà. C'est vraiment le préalable, l'éducation est le préalable au passage à l'action.
Et je vois que sur votre site, on peut trouver évidemment des ressources pour aller plus loin, ressources à télécharger, des choses qui permettent d'approfondir.
Oui.
On vient de parler des entreprises, les collectivités peuvent également faire appel à vous.
Oui, les collectivités peuvent faire appel à nous aussi. On intervient auprès des collectivités locales. L'association La Fresque du Climat et un autre atelier partenaire qui s'appelle Deux Tonnes ont tous les deux été retenus pour faire partie du grand plan de formation des cadres d'État. Donc là, on va déployer ces ateliers-là auprès de 25 000 cadres d'État. Et puis après, ça va cascader auprès de 3 millions d'agents qu'il y a sur tout le territoire dans les prochaines années. Donc là, on a un gros travail
un gros chantier.
De sensibilisation. Mais voilà, pareil, comme on ne fera pas sans les entreprises, on ne fera pas sans les politiques, parce que ben, mine de rien, ils ont des leviers qui sont énormes à leur échelle pour impacter beaucoup de gens. Et c'est très bien qu'ils se saisissent de ça, parce que souvent on va avoir des fois par rapport à l'écologie une attitude un petit peu culpabilisatrice vis-à-vis des individus, de dire bah oui, c'est à vous de faire ci,
ça. Plus utiliser de gobelets en plastique, plus utiliser de serviettes en papier.
Et là, on est sur de l'ordre du micro-geste. Alors, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas le faire, je le fais moi-même, bien entendu. Et ça aide à se mettre dans cet état d'esprit différent. Mais par contre, on ne peut pas faire reposer l'intégralité de ce poids sur les épaules des individus. Parce qu'il y a des choses, il n'y a pas les leviers. Ce qu'on appelle aussi l'architecture du choix, en fait. Hein. Si vous, vous sortez dans la rue, vous avez envie de manger sain et que vous n'avez que des fast-food dans votre coin de rue, que ça coûte pas cher, vous êtes étudiant, vous n'avez pas de moyens, bah, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, vous allez aller au fast-food, vous allez faire 20 km à pied pour essayer d'aller manger une soupe de potimarron à 7 euros. Enfin, vous voyez. Donc,
c'est la limite du colibri, en fait. C'est que on peut faire effectivement son geste à sa portée, mais dans un choix qui nous est donné. Et celui-là, on ne le choisit pas.
Et celui-là, on ne le choisit pas. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important d'embarquer aussi les entreprises et les politiques là-dedans pour élargir justement ce panel de choix et ne pas faire que les choix éco-conscients soient faits dans des conditions ultra compliquées, parce qu'après on touche que les ultra convaincus, quoi, et c'est pas
et puis on abandonne très vite,
on se décourage, c'est ça. Et l'idée, c'est pas que ça se fasse dans la souffrance, au contraire.
On veut réussir,
c'est pour ça qu'il faut absolument embarquer aussi le collectif avec les politiques et les entreprises.
Oui, puis ça rappelle
et
que
les écoles aussi.
Que beaucoup...
Ça commence par là, hein,
parce que l'éducation, ça commence par là, bien sûr. Et donc c'est pour ça aussi que nous, quand on intervient dans les écoles, quand on nous demande d'intervenir auprès des élèves, on dit oui, mais les profs, on veut que vous fassiez aussi
Et puis les enfants sont des prescripteurs, et puis ce sont les futurs, sont les futurs salariés, les futurs cadres, acteurs, futurs.
Mais voilà, c'est important d'envoyer à ces jeunes un message positif, de leur montrer aussi que oui, ils vont hériter de ce monde-là, mais en même temps, ils n'ont rien demandé, et de leur montrer qu'il y a des adultes aussi qui font les choses. Et les adultes, aujourd'hui, ils sont dans les entreprises, ils sont...
Oui, puis les luttes et les combats peuvent se faire dans la joie, en fait.
Exactement.
Avec une démarche joyeuse, on n'est pas, comme vous l'avez dit, dans la contrainte, c'est dans la punition, en fait. On peut juste rêver, mais aussi travailler activement à quelque chose qui nous plaît plus. Ouais. On peut rappeler le site pour pouvoir vous retrouver
Alors, le site de l'association qu'on porte aujourd'hui sur le salon, c'est renaissanceécologique.org. Et puis moi, ma structure, ça s'appelle savoirprécieux.com. Voilà.
D'accord. Et sur le site physique du FOF, où est-ce qu'on peut vous trouver?
Alors, sur le site physique du FOF, on est au stand H103. Donc, quand vous rentrez sur le salon, vous allez tout au fond, à gauche. Voilà. On n'est pas très loin des stands d'agriculture.
Et de la MFR qu'on recevait juste avant, effectivement.
Exactement.
Ça marche.
C'est tout de même assez complet.
Merci beaucoup. Oui.
Merci Amandine. Et puis, il y a des événements, d'autres événements sur lesquels on va pouvoir vous retrouver là prochainement.
Oui, on a un atelier de la fresque du climat qui va avoir lieu le samedi 18 mars à 15h à la Drôle d'Épicerie.
Dans 15 jours.
Ouais, place du Palais. Voilà, on essaye aussi de faire nos ateliers dans des lieux qui portent les mêmes valeurs que nous. Voilà, donc ça c'est le prochain atelier qu'on a dans les semaines qui viennent. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et là, c'est sur fresqueduclimat.org. Voilà.
D'accord. Il y a d'autres événements qui se préparent.
D'autres événements qui se préparent, il y a la semaine verte aussi à Saint-Michel. Donc là, moi je serai là, je tiendrai un stand avec une autre association, on est plein, qui s'appelle Inventons nos vies bas carbone. Et là, on va faire une animation qui consiste à montrer en fait l'empreinte carbone moyenne d'un Français et qu'est-ce qu'il faut réduire pour réussir à tenir l'accord de Paris et limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré à horizon 2100. Et là, on aura la possibilité de faire simuler aux gens leur empreinte carbone pour qu'ils voient en fait où sont les gros postes, qu'est-ce qu'ils peuvent réduire, et donc ça a lieu à Saint-Michel au Kaléidoscope. Il y aura plein d'animations autour de l'écologie, des balades, des façons de consommer plus responsables, des témoignages de familles zéro déchet. Donc ça va être un événement qui est qui est très chouette. Et ça, c'est le 25 mars.
25
le
week-end, pardon, du 25 mars. Samedi bientôt. Suivant.
Voilà, le samedi suivant. Exactement.
Parfait. Eh bien, écoutez, et puis on reste peut-être un petit peu en contact pour annoncer vos prochaines présences.
Avec grand plaisir.
Bon,
merci
très bien.
Beaucoup.
Merci Amandine.
Merci Amandine.
Profitez bien du FOF ici.
Merci.
En direct de l'espace Cara.